Assalamu alaikum, shalom, bonjour, vous êtes les bienvenus au Club La Presse que nous animons ce vendredi 16 juin 2023. Vous qui nous écoutez par tous les canaux, sur toutes les antennes, vous êtes les bienvenus. Et je vous salue avec le technicien Thomas Datevi qui porte aujourd'hui, qui a poussé 20 doigts et qui manie tous les boutons et toutes les manettes. Au studio avec déjà en place Godson Ketomagna du journal Liberté. Bonjour.
Bonjour Sass. Bonjour chers auditeurs. C'est surtout un coucou à...
Tu veux parler un peu plus fort?
C'est surtout un coucou à nos frères et sœurs qui sont en conflit avec la loi.
Et qui sont quelque part aujourd'hui dans les lieux de détention ou carrément en prison.
Exactement.
Merci, c'est gentil pour cette adresse à leur endroit. Ils demeurent nos frères et nos sœurs, et vivement qu'ils sortent de là, qu'ils retrouvent leur liberté, et surtout qu'ils tirent de judicieuses leçons des mésaventures qui les a conduits là. Olivier Yawadja de Harakiri, Afrique Presse, bonjour.
Oui, bonjour Sass, bonjour à toutes les auditrices, à tous les auditeurs, à tous ceux qui me connaissent au quartier, à Vatame, à Monsieur Nimon, mon cher voisin, et à Papa, Papa Colli, qui est fidèle donc à l'émission.
Et il n'y a pas de voisine à saluer?
Oh, ma voisine, ma chère et tendre épouse, je la salue aussi.
C'est ta femme qui est ta seule voisine.
et les autres voisines, merci beaucoup. Que je ne fréquente pas.
Nous attendons un troisième confrère, mais assurons-nous qu'il nous rejoigne effectivement avant de vous le présenter. Mais déjà, nous pouvons partager cette pensée du jour qui nous enseigne que le futur n'a de sens qu'à la pointe de l'outil. Encore une fois, le futur n'a de sens qu'à la pointe de l'outil. Nous sommes vendredi en fin de semaine. Les sujets sont riches et variés, mais nous avons choisi un gros dossier de justice sociale. Vous verrez ce qui meuble ça. Et puis nous allons revenir sur la sécurité sur tous les plans, ici au Togo et ailleurs. Et puis nous allons terminer avec la fin du recensement et la vie de quelques partis politiques comme les journaux en parlent. Godson et Olivier, vous le savez déjà, nous sommes le 16 juin et le 16 juin, c'est la journée mondiale de l'enfant africain. Cette journée décidée en souvenir et en mémoire aux étudiants sud-africains qui avaient manifesté le 16 juin 1976, un certain nombre était tombé sous les balles des forces de l'apartheid à Soweto. Et cette journée de mondiale de l'enfant africain décidée, c'est pour demander une éducation. D'abord, à Soweto, les étudiants sud-africains demandaient une éducation de qualité. Et aujourd'hui, 16 juin 2023, des dirigeants sont encore appelés à mettre en place des mesures fortes afin que tous les enfants africains puissent avoir accès à l'éducation, aux soins, à un niveau de vie décente et que ces enfants soient pris en compte dans les décisions des gouvernants qui les concernent. Et pour mémoire, vous rappeler, la semaine a commencé le 12 juin avec la journée mondiale contre le travail des enfants. Et aujourd'hui, le confrère l'évêque de la nation écrit « Justice sociale pour tous, les priorités togolaises présentées par Victoire Tominga Dogbe ». Vous savez que l'Organisation internationale du travail tient depuis le 5 juin sa 111e session consacrée au travail et à la justice sociale. Et Togo Matin, lui aussi écrit ce matin, sommet sur le monde du travail, Victoire Tominga Dogbe parle de sécurité et de souveraineté alimentaire. Pendant que Togo Réveil, de notre cher Germain Pouli qui vient de nous rejoindre, écrit lui aussi, Justice sociale pour tous à Genève. Victoire Tominga Dogbe réaffirme l'engagement du Togo et l'Union y consacre un joli article intitulé « Sommet sur le monde du travail, Victoire Tominga Dogbe à la tribune de l'OIT ». À cette tribune, la première ministre a parlé de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui a un seul objectif, à savoir vaincre la pauvreté pour faire du Togo un pays stable et en paix, une nation moderne, ambitieuse et juste, avec une croissance économique inclusive et durable. L'objectif est de combiner l'amélioration des conditions de vie, l'émergence compétitive et la souveraineté stratégique. Je continue à citer Tominga Dogbe qui parle du renforcement du capital humain des Togolais avec l'accélération de l'accès aux services publics essentiels, l'éducation, la santé, l'eau, la protection sociale en s'appuyant sur le digital. Et plus loin, la Première ministre a parlé du Togo qui veut créer encore plus d'emplois pour la jeunesse et renforcer l'entrepreneuriat et la compétitivité économique de notre pays à travers le développement du secteur privé, le soutien au secteur productif, le renforcement de l'accès à l'énergie et au numérique, mais aussi au financement. La Première ministre a également abordé la sécurité et la souveraineté alimentaire. Elle a également mis l'accent sur l'accès universel à l'éducation pour toutes et pour tous au Togo. Germain Pouli, bonjour.
Bonjour Sos, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Canal.
Merci de nous avoir rejoints. Voilà ce gros chapitre de justice sociale. D'abord aujourd'hui, c'est le 16 juin, en mémoire et en hommage aux enfants sud-africains qui sont tombés, journée mondiale de l'enfant africain avec tous les défis qui demeurent. Le 12 juin dernier, c'était la journée contre le travail des enfants. Et puis cette session de l'Organisation internationale du travail avec cette déclaration de la première ministre Victoire Tominga Dogbe. Godson?
Oui, ça c'est... Moi, la première fois que j'ai entendu parler de la journée du 16 juin, c'était quand j'étais à Bonfondé. Mm-hmm. Et chaque année, nous célébrions cela. Et donc, depuis, c'est une chose que de louer l'enfant africain. Et sur le plan travail, il y a aussi le fait que beaucoup d'enfants sont dans le monde du travail alors qu'ils devraient être ailleurs, mm-hmm. je veux dire, sur les bancs de l'école.
Oui.
Et donc, si les dirigeants doivent consacrer une journée à cette tranche de vie, il serait encore bien que ça soit effectif. Parce que à travers les écrits que vous venez de déplucher, il n'est transparu aucune critique. C'est comme tout va dans le sens de tout ce que l'autorité dit. Mais il faut quand même une certaine remise en question entre la parole et la réalité sur le terrain, mm-hmm. essayant de faire l'état des lieux. Parce que ce n'est pas en allant toujours dans le sens de l'autorité qu'on sert cette autorité. Mm-hmm. Voilà. Nous n'avons pas cherché à aller sur ce terrain autrement. On devait relever des défis, des choses qu'il faut améliorer dans le sens du bien-être des enfants.
Mm-hmm. Voilà. Merci. Le confrère, le Canard indépendant, également paru aujourd'hui, écrit à la page 3, sommet sur le monde du travail, la justice sociale pour tous, à Genève, Victoire Tominga Dogbe prône une approche multidimensionnelle dont les journaux font cas. Mais justement, Germain Pouli, il y a cette belle déclaration de la chef du gouvernement à Genève. Elle a parlé de beaucoup de choses, mais comme je disais tantôt, Godson, il y a la réalité chez nous ici. 100% des enfants togolais ne vont pas à l'école, 100% des enfants togolais n'ont pas accès à des soins de santé, n'ont pas accès à l'électricité, à l'eau, à la vie décente, et aux soins de santé, tout ça, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de défis à relever.
Oui, énormément. Il y a énormément de défis à relever. Je pense que c'est pour ça qu'il y a ce genre de rencontre, pour voir ce qui a été fait un peu, parce que beaucoup reste à faire, et en même temps envisager et donc l'avenir. Et on sait tous que l'homme de demain, c'est l'enfant d'aujourd'hui. Et si on veut s'apprêter pour des pays développés, des pays prospères, c'est qu'il faut suivre cette enfance-là qui deviendra dans quelques mois cette jeunesse-là, et puis ces adultes qui devront travailler donc pour développer le pays. Donc il faut mettre l'accent sur les enfants, et ici bon, on ne va pas rappeler les quelques efforts qui sont faits hein, depuis la naissance avec la césarienne qui est accompagnée, le suivi des femmes et tout ça, mais reste encore que sur le plan santé des enfants, il y a beaucoup à faire. Et quand vous regardez dans les rues, je venais tout à l'heure, j'ai vu un peu avant le feu rouge de l'autogo en face de la station Shell,
il y a une dame qui T-Oil.
T-Oil, voilà, il y a une dame qui était assise là, qui est une mendiante avec deux enfants qui n'ont même pas 6 mois. C'était triste. Je pense que l'action sociale doit pouvoir s'occuper de ces cas-là. Maintenant, c'est pas propre à l'Afrique, même si c'est plus récurrent en Afrique, même dans certains pays développés, on assiste à cela. Donc il faut plus de solidarité, que cette solidarité se manifeste au-delà même des États. Vous avez des ONG, des associations qui s'investissent énormément. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Il faut que de bonne volonté, et que nous-mêmes, dans nos quartiers, quand on constate qu'il y a des enfants qui ne s'en sortent pas, c'est pas forcément qu'on est riche, mais on peut faire le geste. Il faut cette solidarité-là envers l'enfance, et profiter quand même, saluer le travail qui est fait par plusieurs ONG qui travaillent à améliorer la condition de vie des enfants. Maintenant, il y a des efforts sur le plan formation, éducation. Des efforts particulièrement au Togo sont faits pour la jeune fille, hein, pour qu'elle puisse aller à l'école. Et aujourd'hui, on voit un peu les résultats. J'observais qu'il y a eu le CPD, dernièrement. Qui a pris fin hier. Et sur le nombre de candidats présentés, il y a pratiquement la moitié qui sont des jeunes filles.
207 000 candidats avec pratiquement autant de filles que de garçons.
Que de garçons. Donc ça fait quand même plaisir. Mais les défis sont là, c'est énorme. Il faut travailler dans ce sens-là. Et donc je pense que ce n'est pas seulement une affaire de gouvernants. C'est une affaire qui nous concerne tous. Si ces enfants-là ne réussissent pas, demain, ils seront des dangers pour toute notre société, et pas seulement pour les dirigeants, mais pour nous-mêmes. S'ils deviennent des bandits, c'est qu'on ne pourra pas dormir dans le quartier. S'ils n'ont pas du boulot, c'est que nous-mêmes, on sera obligés de nous en occuper, même étant vieux, on est obligé de nourrir nos enfants. Et donc, ça reste quand même des défis sur lesquels il faut travailler ensemble pour pouvoir les relever.
Merci beaucoup. Tous ces défis, hein, comme l'a dit Madame la Première ministre, l'accès universel à l'éducation pour tous et tous au Togo, l'accès universel aux soins de santé. La première ministre a également parlé de la feuille de route gouvernementale qui veut vaincre la pauvreté pour faire du Togo un pays stable et en paix, une nation moderne, ambitieuse et juste, avec une croissance économique inclusive et durable, combinée amélioration des conditions de vie, émergence compétitive, souveraineté stratégique. Elle a parlé également du digital. Aussi bien dans les services publics que privés, beaucoup de choses. C'est des chantiers sur lesquels le gouvernement travaille. Et pour ce qui est des enfants spécifiquement, Gosson a partagé avec nous son expérience avec l'ONG Bonfonden. Comment ne pas penser à ces bonnes volontés, à ces ONG comme Plan Togo, comme Relutête, comme les SOS Village d'enfants qui recueillent les enfants orphelins, les pouponniers. C'est bonne volonté, mais encore, Olivier Adja, à tous les coins de rue, il y a beaucoup d'enfants qui ne travaillent pas, qui ne vont pas, enfin, qui n'apprennent pas un métier, qui ne vont pas à l'école, mais qui sont dans les rues, qui mendient. Certains sont prêts à faire de petits boulots, à nettoyer un peu votre véhicule, mais comme l'a dit Germain, ces enfants, si nous ne nous occupons pas d'eux, c'est eux qui risqueraient de nous occuper demain. et pas en des termes que nous aurions souhaité.
Oui, ça, le chantier est énorme, le chantier de la prise en charge de nos enfants, et de leur éducation, de leur réussite, c'est un chantier très énorme. Nous vivons dans un monde qui évolue très rapidement et aujourd'hui, l'éducation seule ne suffit pas. Il faut une éducation scolaire, mais il faut une éducation aussi à la maison. Il faut un encadrement qui soit suivi et régulier pour que nos enfants ne tombent pas dans des travers. Vous savez, le problème, chaque personne, chaque Togolais, je dirais, attend de l'État beaucoup de choses. Que l'État fasse ci, que l'État fasse ça, que l'État éduque nos enfants, que l'État les protège, que l'État... On attend tout de l'État, mais on ne se demande pas qu'est-ce que nous-mêmes, on nous demande de faire pour faire avancer notre société. Qu'est-ce que quelle est notre part de responsabilité dans la réussite ou l'échec de nos enfants que nous-mêmes avons choisi de mettre au monde, d'accord? Et beaucoup de parents aujourd'hui ont démissionné en se disant que l'État, c'est l'État qui devrait le faire. Mais lorsque vous ne donnez pas une bonne éducation à la maison à votre enfant, l'État ne vient que compléter. Donc ce que l'État va faire, ça ne suffira pas. Aujourd'hui, il y a une affaire où il y a une question très très importante qui secoue la société. C'est la question de la moralité dans les espaces publics. Mm-hmm. Et nos enfants sont en première ligne de front, puisque ce sont eux qui sont influencés par ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, par les travers de nos jeunes gens, etc., etc. Qu'est-ce que nous faisons pour éduquer nos enfants lorsque nos enfants exposent leur nudité? Je vais parler principalement de nos enfants qui sont des filles, qui exposent principalement leur nudité dans la rue et partout. C'est nous qui sommes avec eux à la maison. Qu'est-ce que nous faisons? Quelle éducation nous donnons à nos jeunes garçons qui ne respectent plus personne et qui exposent leur manque d'éducation dans la société au vu au sur de tout le monde? Donc je crois que autant que nous demandons à l'État de jouer sa partition, autant nous devons aussi nous poser des questions légitimes. Quelle est notre part de responsabilité dans la réussite de ces enfants? Quel exemple nous donnons à ces enfants dans notre propre vie, dans nos comportements? Est-ce que nous ne leur donnons pas un exemple de laxisme et de tricherie, de vol, de tout ce qui est vice, et que même si nous ne leur dirons pas de faire ceci et cela, ils copient à travers nos comportements? Voilà ce que nous devons faire pour construire un mur.
Merci,
autour
Olivier,
de ces enfants-là.
Quand je t'écoute, je me rappelle dans les ruelles de Haute, quand un enfant se comportait mal,
c'est toute la société qui...
Amakamevia. C'est l'enfant de qui? Ça veut dire que le mauvais comportement de l'enfant trahit en fait le mauvais comportement des parents ou la mauvaise éducation des parents. Et un peu dans ce sens, il y a justement cet article du confrère Temps Nouveau qui écrit la page 2. La prostitution prend des allures inquiétantes à Lomé. Et l'article aborde ces nouveaux nids de débauche dans les périphéries comme à Goué, comme Toglekopé, comme à Détikopé, à Védji, Pogan et autres. Et le tout dans un exhibitionnisme déconcertant et attentatoire aux bonnes mœurs. Godson, cette semaine, depuis 2-3 semaines, c'est ce communiqué du ministre Lamandoku de la Culture et du Tourisme qui défraie la chronique, quand Lamandoku s'élève contre les propos obscènes et les comportements irresponsables de certains artistes. Et puis, cette semaine, on a vu également la police démanteler un réseau de proxénètes ici à Lomé. Il y a l'article du confrère Temps Nouveau. Il y a également le confrère Arakiri qui nous parle de la police des mœurs au Togo avec un sondage qui démontre que les Togolais sont plutôt favorables à une police des mœurs. Voilà je sais pas comment l'appeler, mais ce danger qui s'incruste dans notre société et qui nous ronge depuis l'intérieur.
Vous allez beaucoup excuser mon franc parler. Mm-hmm. Tout à l'heure, en écoutant la litanie des bonnes intentions de la chef du gouvernement, il m'est venu à l'idée de savoir, quand on fait un recensement du nombre de bars à Lomé, pour ne pas dire sur toute l'étendue du territoire, il faut voir le nombre de filles, et c'est spécialement des filles qui sont exploitées dans ces bars pour servir.
Oui.
Mais alors, demandez-vous, du 1er au 31, combien elles sont payées? Il est vrai qu'on a dit avoir porté le SMIC à 52 500 francs, mais allez demander combien elles perçoivent à la fin du mois, qui puisse leur permettre, voilà aussi un autre problème, de se déplacer. Il y a un an, le gouvernement a porté le litre d'essence à 700. Quand le baril était à 122 $ et plus, un an après, à ce jour, le baril est autour de 71 $. Mais le litre est toujours maintenu à 700.
Le litre d'essence.
Voilà. On ne va pas nous dire que c'est toujours la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui implique ça. Tout ceci pour dire quoi? Quand nous parlons d'éducation des enfants, on doit leur donner une ouverture. L'enfant va à l'école jusqu'à son bac. Là, c'est les vacances qui s'annoncent.
Mm-hmm.
Une fille qui a le BPC ou le bac, qui veut faire un travail de vacances. Souvent, c'est les services dans les bars et autres.
Oui.
Ou alors stage. Combien elles sont payées? Donc, quand on veut parler de bonnes intentions, il faudrait qu'on parle de cette réalité-là. Que, ben, oui. Il faut faire, oui, franchement, que le nerf de la guerre que les gens perçoivent au Togo leur permette d'avoir un espoir. Autrement, je ne serai jamais d'accord qu'on parle de débauche des enfants. Ça, je suis foncièrement contre. Mais si on doit creuser le problème, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit améliorer pour tirer les filles de cette tentation. Parce que avec ça, il faut reconnaître qu'il y a une forme d'argent de gain facile, oui, sans effort, mais il y a la morale qui doit primer surtout.
Merci. Mais tu es allé trop loin pour le salaire. Hein, même ceux qui ont un travail plus ou moins formel, est-ce qu'ils perçoivent au moins le SMIG?
Oui, mais il y a quand même quelque chose.
Oui, mais revenons quand même sur le sujet des enfants, notamment.
Non, cette il faut quand même relever un fait très important.
Oui, Olivier.
On dit, ce n'est pas parce qu'on a faim qu'on va aller manger n'importe quoi. Ok? Ce n'est pas aussi parce qu'il y a des problèmes où les gens souffrent que les voleurs, les braqueurs, on va trouver des circonstances atténuantes ou des excuses à leurs actes. C'est-à-dire, une chose est que nous avons des soucis, des difficultés. La société a des difficultés. Les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ça, c'est réel. Et c'est partout. Mais ce n'est pas pour autant que 100% de ces personnes vont aller se jeter dans le vice. D'accord? Nous savons qu'il y a des gens dans les bars, les filles qui ne sont pas bien payées, tout cela, oui. Mais parmi elles, vous trouverez des filles qui ne se sont pas jetées dans la prostitution, qui ne se sont pas jetées dans l'exhibitionnisme. Donc, faisons aussi attention pour ne pas donner à des gens l'excuse parfaite, ou parfaite plutôt, pour dire que bon, ce que nous faisons,
bon,
nous avons faim, donc on peut le faire parce qu'on a un blanc-seing.
Merci. Tu as tout résumé, hein, depuis l'éducation, depuis la maison. Et c'est en cela que les parents que nous sommes, hein, nous devons nous interpeller, comme nous nous permettons également d'interpeller les parents qui nous écoutent actuellement, que ce soit des hommes ou des femmes. Quel amour portons-nous à nos enfants? Quelle base d'éducation leur donnons-nous? Et surtout, quelle ambition nourrissons-nous pour nos enfants? Qu'est-ce que nous voulons que nos enfants soient demain, quand nous serons vieux, ou carrément quand nous ne serons plus? Trompe de suspension, et nous abordons le sujet sécurité sur tous les plans, ici et ailleurs. Et Sohana Germain Pouli, commençons par cet article de ton journal Togo Réveil. qui met en lumière plus de 140 casques bleus togolais en opération au Mali au sein de la MINUSMA qui viennent d'être distingués pour leur courage et leur sacrifice.
Oui, tout à fait. C'est, vous savez que c'est finalement une marque hein, pour la participation des Togolais à ces missions internationales. Les Togolais sont généralement réputés sérieux, engagés dans ce qu'ils font et donc sur ce terrain très délicat et complexe de la lutte contre le terrorisme en dehors donc, de notre pays. Ils s'illustrent assez vaillamment à travers des actes de bravoure, à travers des interventions, parfois au péril de leur vie. Vous savez que plusieurs casques bleus meurent dans ces missions-là, y compris des Togolais. Parfois, ce sont des cercueils qui nous reviennent donc de ces missions-là. Mais cette bravoure-là a été récompensée une fois encore. Et donc, au nombre de ces militaires qui ont été distingués, environ 160, il y a quand même 140 Togolais. Hein, qui font partie du lot, donc du gros lot de ceux-là qui ont reçu cette médaille-là, donc de l'ONU, et qui reviennent avec cela. C'est une fierté pour notre pays. C'est une fierté aussi pour eux parce qu'ils se sont engagés, ils se sont donnés, ils se sacrifient pour apporter la paix dans le pays où ça chauffe aujourd'hui. Nous sommes également concernés par ce genre de situation. Un peu dans l'extrême nord du pays et nous assistons pratiquement aussi à la même chose des soldats togolais qui sont sur le front là-bas et qui essaient aussi de se donner leur vie et de se sacrifier de lutter pour protéger la nation.
Donc, merci, ce terrorisme, cette hydre qui étend malheureusement ses tentacules un peu partout en Afrique et hors même d'Afrique. Nous le combattons aux frontières nord, nous le combattons auprès des pays voisins, mais le Togo combat le terrorisme également au plan mondial. C'est dans ce sens que notre pays a rejoint il n'y a pas longtemps la coalition mondiale contre Daesh, qui se veut une vaste synergie d'efforts destinés à mettre un terme à l'influence et aux activités de l'État islamique, aussi bien sur le plan militaire qu'économique notamment. Mais le terroriste peut également utiliser des armes nucléaires. Ce n'est pas exclu. Cela nous amène à cette rencontre le Togo a abritée cette semaine. C'était à l'Assemblée nationale. Comme le rappelle le journal, comme l'Union pour la Patrie, répression des actes de terrorisme nucléaire. Le Togo, qui a abrité cette rencontre, a été également invité à ratifier la Convention internationale contre les armes nucléaires. Vous savez bien, Germain Olivier et Godson, que le 4 juin 2020, l'Assemblée nationale avait adopté une loi relative à l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique du nucléaire. Ensuite, le 7 février 2021, l'Autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaire a été créée par décret pris par le chef de l'État, mais le Togo n'a toujours pas encore ratifié la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. Hein? On n'a pas encore ratifié cette convention. Convention qu'ont ratifié 120 pays. Le Togo ne l'a pas encore fait. Alors que la présidente de l'Assemblée nationale a reconnu que même si le risque est faible, il n'est pas nul. Les terroristes pourraient toujours user d'armes nucléaires ici et là. Voilà, et Olivier, je ne sais pas qui prend le premier, Olivier. Voilà cette rencontre organisée par le Togo. Il y a les pas qui ont été déjà faits, la loi et le décret, mais Togo qui a été vivement invité à ratifier cette convention. Ainsi, nous pourrons ensemble lutter contre l'usage par les terroristes éventuellement d'armes nucléaires.
Oui, bien sûr. Le Togo a pris l'engagement, d'ailleurs, au cours de cette rencontre, de ratifier très rapidement donc cette convention qui a été ratifiée par beaucoup d'autres pays. Il faut saluer cela et il faut en tout cas assurer la paix. Et c'est comme ça, par ces actes, qu'on assure la paix sur notre planète. Hein. Donc nous n'avons pas d'autre planète à part la Terre et nous savons ce que c'est que le nucléaire, même si dans nos pays, nous n'avons pas des grandes centrales ou industrie nucléaire quand même. Et nous entendons parler et nous savons que ce sont des éléments très dangereux. Et aujourd'hui, vous parlez de terrorisme et nucléaire. Ça, donc, les terroristes, de façon traditionnelle, peuvent mettre la main sur ces armes parce qu'ils veulent contrôler des pays. Et il y a certains pays au monde qui ont des armes nucléaires ou bien qui ont, en tout cas, le nucléaire qu'ils manipulent. Donc, si on la met la main sur ces outils ou ces éléments, ces armes, ça peut toujours, ils peuvent l'utiliser pour une mauvaise action. Mais il y a une question très importante qu'il faut se poser. Et les États, surtout développés, qui ont aujourd'hui ratifié ces conventions, est-ce qu'ils ne font pas du terrorisme nucléaire à notre endroit? C'est une question, parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec les guerres que nous avons, la menace nucléaire, elle est permanente. Les pays n'hésitent pas à dire qu'ils peuvent faire recours aux armes nucléaires. Et ça, c'est du terrorisme nucléaire à notre endroit, à l'endroit des citoyens de cette planète. Parce que le terrorisme, c'est quoi? C'est faire peur, c'est menacer des gens, de leur faire du mal. Et aujourd'hui, si nous avons une guerre nucléaire sur la planète, personne n'est à l'abri. Et donc, ces nations qui sont responsables, qui nous appellent à ratifier des conventions, parce qu'on parle de terroristes, c'est-à-dire ces petits groupes qui sont en place, qui gênent des gens, on parle d'eux, mais ils oublient aussi que eux aussi, ils ont des armes nucléaires et ils sont dans une guerre où chaque jour, ils menacent la planète de guerre nucléaire, de troisième guerre mondiale. Donc, est-ce que nous sommes en droit de nous plaindre par rapport à eux et où allons-nous aller nous plaindre qu'ils agissent sur nos psychologies, ils font une violence psychologique sur notre, dans notre vie chaque jour en disant qu'ils vont faire recours aux armes nucléaires.
Ce que tu dis, c'est vraiment pertinent, même si ces nations disent que l'arme nucléaire, c'est plutôt une force dissuasive. Mais quand on considère la guerre que la Russie mène en Ukraine, est-ce que le risque est zéro?
Non, pas du tout.
Hein, pour les armes nucléaires, quand on voit un État comme la Corée du Nord qui peut se bomber le torse et faire des expériences, lancer des missiles là, quand on annonce que l'Iran serait en voie de posséder l'arme nucléaire, quand Israël s'appuie sur l'arme nucléaire pour s'imposer au Proche-Orient, je n'ose pas parler des grandes puissances comme les États-Unis, comme la Russie, comme la Chine, comme l'Inde, comme le Pakistan. Le Togo est loin d'avoir ses armes une fois meurtrières, mais le Togo affiche quand même sa bonne volonté de disposer d'un arsenal juridique pour se mettre à l'abri de telles armes.
Ça, je te surprendrai toujours.
Comme d'habitude.
Et c'est ton droit.
Oui, le plus absolu. Je m'incline et m'inclinerai toujours sur la mémoire de mes frères togolais qui ont porté les armes et qui sont passés de vie à trépas dans la défense de mon pays. Jusqu'à ce jour, ce n'est qu'avec les armes conventionnelles qu'on nous fait mal. Les terroristes, les groupes armés qui menacent le Togo, c'est avec les armes conventionnelles. Si nous pouvons déjà arriver à vaincre ce mal-là, ces terroristes qui disposent d'armes conventionnelles, je serai déjà en paix. Pour ce qui est du nucléaire, reconnaît ça, que notre pays a plein
plein d'autres soucis plutôt que de ratifier une convention sur le nucléaire. Appelons un chat un chat. Je ne vois pas en quoi ça là, ça va changer le quotidien du Togolais. Parlons concrètement, armes nucléaires, pour en faire quoi? Qui va en posséder? On ratifie ça pour lutter contre qui? Posons les bonnes questions et avançons.
Et toi, Germain?
Non, je pense que on a plusieurs lois au Togo qu'on n'applique pas. Mais il se peut qu'un jour, on ait à les appliquer. Donc voilà pourquoi c'est important quand même de voter des lois hein, sur des activités qu'on croit qu'elles n'existent pas. Mais le jour où vous avez vu, par exemple, sur le trading et tout ça, un certain nombre de choses, on a
même
eu
sur
mal.
Le terrorisme.
Non, on a dû faire un seul exemple lois. Banal où on se disait que c'est une activité qu'on n'a pas codifiée. Et quand ça tourne à l'escroquerie, on ne peut pas dire que c'est de l'escroquerie, on va continuer par dire. Donc, voilà, donc je crois que là, mais les terroristes, il faut quand même s'en méfier parce qu'ils n'utilisent pas que les armes conventionnelles et ils utilisent des armes chimiques aussi. Et les armes chimiques, tout le monde peut en utiliser, y compris nous-mêmes, parce qu'il s'agit d'une autre manipulation des produits chimiques. Dès qu'on travestit leur utilisation, dès qu'on détourne leur utilisation utile et que ça devient nuisible, ça devient une arme en ce moment. Et puis le nucléaire aujourd'hui, c'est possible. Même si on pense que nos pays en Afrique, il y a peut-être deux ou trois pays qui parlent en termes de nucléaire, mais ça peut arriver. Et il faut, ce sont des garde-fous. On a vu un peu toute la mobilisation dans des partenaires étrangers à l'Assemblée la dernière fois pour nous amener à ratifier cela. Watson a un peu raison, c'est peut-être pour ça que les députés ne se pressent pas trop, le gouvernement également, mais c'est des outils dont on peut avoir besoin et ça ne nous coûte rien de les ratifier quand même pour rejoindre dans ce grand mouvement mondial-là qui a pour ambition donc de protéger le monde contre l'utilisation des armes nucléaires. Et avec la guerre aujourd'hui en Ukraine, Russie-Ukraine, ce n'est pas exclu qu'on assiste à une utilisation dangereuse de cette arme-là. Et c'est le moment aussi de le rappeler. Là, en ce moment, il y a une délégation africaine qui est en Ukraine et qui va aller en Russie. Ben, si elle est sensibilisée, c'est l'occasion aussi de parler à ces deux protagonistes-là, de cette crise-là, des dangers du nucléaire. Donc c'est une affaire qui nous concerne tous. Ça peut péter là-bas et ça peut nous toucher ici. Et je crois que, bon, dans l'immédiat, nous, on n'est pas concernés, on se le dit. Mais on peut être concernés et je crois que c'est une bonne chose de rejoindre cet élan.
Merci. Effectivement, il est annoncé qu'une délégation de 4 chefs d'État, les présidents sud-africains, tanzaniens, comoriens et sénégalais, avec des plénipotentiaires du Congo, Brazzaville, d'Ouganda et d'Égypte, jouent la médiation entre les chefs d'État ukrainiens et russes. Nous leur souhaitons bonne chance. Et nous terminons avec ce forum international que le Togo s'emploie à abriter en octobre prochain. L'Éveil de la Nation nous en parle avec cet article. Paix et sécurité en Afrique. Le Togo s'active pour un forum international. Et que Togo, matin, écrit lui aussi que Lomé confirme son statut de capitale de médiation du dialogue avec le Lomé Peace and Security Forum que nous allons abriter le 21 et le 22 octobre prochain. Nous l'annonçons. Et quand on sera dans le vif du sujet, nous y reviendrons avec l'espoir que le gouvernement togolais qui organise ce forum saura associer la presse nationale effectivement dans la couverture et qu'on ne va pas encore nous larguer dans les fleurs et qu'on aille chercher d'autres journalistes, d'autres médias, d'autres continents pour couvrir ce forum, alors que c'est nous qui l'annonçons aujourd'hui, c'est nous qui allons encore en parler dans le vif et après. Olivier, c'est important de commencer à signaler ça à Robert Doucet, à son équipe qui prépare le forum.
Oui, je crois qu'il y a un souci très grave, d'abord un souci de respect à l'endroit de la presse togolaise. Et vous avez des sommets qui se multiplient, qui sont organisés au Togo, et la presse est traitée comme... La presse nationale, je veux dire, est traitée comme moins que rien. C'est-à-dire, on nous sollicite dans les avant-papiers ou les annonces de l'événement, c'est la presse nationale, c'est le Togo, notre pays, qui accueille ces rencontres et ce qui fait notre fierté. Mais vous avez les médias internationaux que nous accueillons, c'est nos frères, nos confrères, nous les acceptons. Mais quand même, les nôtres leur déploient le tapis rouge. Et c'est pas tout, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour le travail. Et la presse nationale, on nous demande de faire, je sais pas, du bénévolat. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très très longtemps. Ailleurs, lorsqu'il y a un sommet, il y a une grande rencontre dans un pays, d'abord la presse est contente parce que c'est une opportunité qu'elle se frotte avec d'autres personnes venues de l'extérieur, mais aussi qu'elle ait des contrats pour pouvoir communiquer autour de la chose. Mais ici, ce n'est pas ça. Les journalistes prennent leur véhicule, ou tout, du moins ça, ceux qui doivent prendre les motos arrivent, prennent des journées, couvrent le sommet, et après, on vous remercie à monnaie de change, ou on ne vous remercie même pas. Je crois qu'il faut quand même attirer l'attention des personnes en charge de la couverture médiatique de ces sommets, qu'elles doivent changer d'approche et qu'elles doivent mettre la presse nationale au cœur de l'organisation médiatique de ces sommets, de ces rencontres, parce que je crois qu'il faut qu'on change de paradigme. Vous savez, on nous a demandé que la presse se professionnalise, que la presse se change ou bien se transforme en société, etc., avec les impôts, avec tout ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, un ministère va vous appeler pour des couvertures, et après, soit il vous tend 5 000, ou soit c'est merci. Mais je crois qu'on ne peut pas se professionnaliser
avec les merci,
avec des merci et avec des 5 000 francs.
Nous avons commencé à en parler, nous n'avons rien contre les confrères étrangers, mais c'est un sentiment de frustration quand on nous largue dans les oubliettes, et qu'on fait venir des confrères à qui on paie des billets d'avion, qu'on loge à l'hôtel, à qui on fournit des véhicules de fonction. Après, on peut imaginer les cachets pour le travail, et que nous soyons, que nous retrouvions entre nous. En tout cas, nous en parlons aujourd'hui avec l'espoir que ça entrera dans les oreilles qu'il faut. Nous continuons avec la politique, et depuis mercredi, le recensement en principe a pris fin. Dans la zone 3, dans le grand nord du Togo, la CENI a publié un communiqué à cet effet. Mais je rappelle que, à cause de toutes les difficultés, de tous les dysfonctionnements que les opérations de recensement avaient connus dans la zone 1, certaines personnes continuent à demander que la CENI revienne et accorde des séances de rattrapage à ceux qui n'avaient pas pu se faire recenser, pas par leur faute. Ils étaient là, ces hommes et ces messieurs, mais c'est la CENI qui n'avait pas pu les faire enrôler. Godson, jusqu'à présent, la CENI ne dit encore rien vis-à-vis de cette sollicitation, qui n'est que le droit légitime à des Togolais, Togolaises de la zone 1, de se faire enrôler.
Ça, à moins que dans la tête des membres de la CENI, on se dise que les gars, les Togolais de la zone 1 là, ils ne sont pas prêts de voter pour nous le jour J. Et donc, on ne veut plus prendre de dispositions pour permettre à ceux qui ne se sont pas fait recenser de le faire. Autrement, notre constitution a dit que nous sommes égaux devant la loi. Si la faute a vraiment incombé à la CENI, et que des gens, des voix s'élèvent pour qu'il y ait une opération de rattrapage, si la CENI tient à ce que les citoyens en âge de voter posent cet acte civique, mais je ne sais pas en quoi on va opposer une fin de non-recevoir. Comme je l'ai déjà dit, à moins que dans leur tête, ils se disent que Non, 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 non. On n'avait pas prévu qu'il y aurait autant de personnes recensées lors de cette opération. Et là, on a été surpris. Si vous êtes surpris, c'est que des papiers imprimés. Il y a, bref, c'est pour te dire que si on dit niette, l'opposition ne fera rien. Parce que depuis un bon moment, on lui a enlevé...
Cette affaire, ce n'est pas, une affaire d'opposition, Godson. C'est des Togolais.
Merci.
De toute tendance, qui ne demandent qu'à bénéficier de leur carte électeur comme tous les autres.
J'aurais aimé que une autorité du parti au pouvoir aussi parle de ça.
En tout cas, nous voilà. L'avons dit, nous continuerons à le dire et nous féliciterons la CENI si elle écoute et accorde ces occasions de rattrapage. Mais si on ne le faisait pas, c'est toute la nation qui en prendra acte et pour la suite. Les activités de quelques partis politiques, le Canard indépendant revient sur le chef de l'État avec cet article. Fornia Singbe joue carte de proximité avec les Togolais. L'article dit que depuis quelques mois, le président Fornia Singbe crée l'événement en se démarquant de sa froideur et sa distance légendaire vis-à-vis des populations pour s'accommoder des délices des bains de foule. Et l'article se demande qu'est-ce qui fait donc tant courir Fornia Singbe ces derniers temps. Un autre journal revient sur l'étape d'Adeta où le chef de l'État avait bénéficié d'un accueil populaire très monstre et le Canard indépendant revient avec une fixation sur les chefs traditionnels qui étaient à l'État et qui applaudissaient le chef de l'État comme tout le monde. Et le Canard indépendant écrit « La chefferie traditionnelle au Togo en décadence ». L'article dit que certains garants des us et coutumes semblent avoir perdu des valeurs d'honorabilité et de respectabilité intrinsèquement liées à leur fonction. Cette nouvelle race de chefs traditionnels qui font de la courbette aux hommes politiques leur gagne-pain. Germain, c'est une scène. Je comprends qu'on sorte pour accueillir le chef de l'État, mais quand des chefs traditionnels, avec tout le respect que nous leur devons, quand ces chefs également s'allient avec des drapelés, voire des photos en main, et qu'ils applaudissent, ils chantent, à l'arrivée du chef de l'État, comme tout le monde, est-ce que ça ne pose pas un certain problème?
Bon, ça pose un problème. C'est comme un journaliste qui applaudit un homme politique quand il va à un reportage. Ou...
ça, je suis d'accord avec toi.
Qui porte un tricot d'un candidat. Donc, déjà, la loi nous l'interdit, mais nous-mêmes, ça vous arrive même à certaines conférences, où on vous demande d'applaudir, y compris les journalistes.
Oui, parfois.
Ouais, parfois on assiste à ça. Bon, les gens ne comprennent pas notre rôle. Dans ce chef-là, c'est peut-être dans un excès de zèle qui se comporte comme la population. C'est vrai qu'ils peuvent être admiratifs du chef de l'État, mais leur statut fait qu'ils peuvent quand même se réserver. Mm-hmm. Maintenant, ils peuvent s'incliner devant le chef de l'État. Ça, je ne pense pas que c'est assez grave parce que le chef de l'État est plus important qu'eux. Ça, c'est la vérité. Nous n'avons pas la trempe des grands rois ici, comme dans certains pays où les rois, comme au Burkina, au Ghana, où les rois ont atteint un niveau. Ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et dans plusieurs pays, il n'y en a pas. Donc, le chef de l'État, s'il veut, il peut s'incliner devant un roi, comme ça se fait au Ghana, c'est par politesse, mais dans la hiérarchisation, et d'ailleurs, ces chefs-là reçoivent leur décret de nomination du ministère de l'administration, donc sur le plan protocolaire, le chef de l'État est plus important que ces chefs, ils peuvent le saluer, se baisser, le saluer, ça ne gêne pas, mais gesticuler comme les militants ordinaires, applaudir et acheter le drapelet, je pense que c'est un zèle. Il y en a aussi qui sont des membres du NIR, mais ils devraient se réserver parce que là, ils sont là, en tant que chef, pas en tant que militant du parti. Et si c'est en privé, ils peuvent le faire, mais publiquement, je crois que c'est un excès de zèle. on ne peut pas le leur reprocher, mais on comprend, sauf que, comme l'a fait observer notre confrère du Canard, ça ne laisse pas une très bonne image. Un chef doit se respecter. Et puis aussi, aujourd'hui, on a trop de jeunes chefs. Moi, j'ai vu plein de chefs qui étaient vraiment très jeunes, parfois la quarantaine. Et
mais nous connaissons des rois qui ont été intronisés très jeunes.
Oui.
Tu te connais, c'était Louis XIV.
Oui,
tu sais à quel âge il a été intronisé. Déjà à 14 ans, Louis XIV s'imposait à ses coups.
Mais lui, il est né pour être roi. Il a été éduqué.
Ceux aussi, ils sont nés dans des familles princières.
Pas forcément, on n'a pas ces rois, c'est ce que je dis.
L'essentiel, c'est des que anciens, nous demandons
des gens à la retraite,
oui,
qui sont chefs. Moi, j'ai un ami qui est médecin quelque part à Lomé ici, qui est chef. Lui, c'est bon, mais il y en a qui sont à la retraite, des anciens qui ont travaillé par-ci par-là.
Eh bien, ou, malgré ça, voilà, nous demandons au chef de se faire respecter, voilà, s'il veut que nous les respections.
Ce n'est pas aussi facile de se tenir normalement devant le président. Il y en a qui n'ont pas l'habitude de le voir souvent et dans un excès, ils peuvent se laisser aller.
Un chef devrait se garder d'un certain excès. En tout cas, s'ils veulent que nous leur témoignons respect, honorabilité, il faut qu'ils se gardent de verser dans certaines choses. Nous sommes en pré-campagne électorale et il faut qu'ils se gardent de se mêler de tout le... Ils sont quand même chefs et cela appelle d'eux une attitude, des comportements. Continuons avec les partis politiques proprement dit, avec Temps Nouveau qui parlant de la présidentielle 2025 laisse croire que l'opposition émergente menace. Quelle est cette opposition émergente? Et qui est-ce qu'elle menace à lire dans les colonnes de Temps Nouveau? Mais Temps Nouveau également s'intéresse à ce feuilleton du CAR et écrit « Succession agitée et mésentente au CAR, le repos de Maître Agboyubo troublé ». Et l'article dit que les héritiers du Bélé Noir de Couvé continuent de s'entre-déchirer, s'offrant ainsi en spectacle à l'opinion nationale. Ducar aussi, Arakiri en parle, Olivier, le temps que je retrouve ton journal. Oui, alors Arakiri écrit « Bataille pour le contrôle du siège du CAR, la mise en garde de Yao Daté ». Je rappelle que Yao Robert Daté, c'est le président qui a été élu au congrès réouvert le 27 mai dernier. Olivier ?
Oui, bien sûr. Vous savez, le CAR, comme certains partis politiques au Togo, sont dans une situation très difficile. Vous savez, il y a comme le syndrome des anciens partis politiques qui frappent ces formations politiques. Vous prenez le CAR, vous prenez l'UFC, on dirait que c'est le même destin ou le même signe astrologique donc qui les gouverne. Le CAR, après la bataille pour le contrôle même du fauteuil de Maître Yaovia Gbebo, l'autre épisode donc, auquel ou bien à laquelle nous ont donc qu'ils nous ont servi plutôt, c'est le contrôle du siège du CAR par un camp ou un autre camp. Donc c'est ce à quoi nous avons assisté le mardi dernier où on accuse le camp Aoukou Nador d'avoir défoncé le portail donc du siège du CAR au quartier Bay, au bord de la lagune, et que le camp Daté serait intervenu pour rétablir les choses. Vous savez, ce qui se passe, l'analyse est simple. Tous les camps veulent montrer aux yeux des Togolais que ce sont eux qui ont le contrôle du siège ou du CAR.
Mm-hmm.
Et ce sont des symboles, tout se trouve dans les symboles. Aujourd'hui, le camp Nador estime que Daté, le nouveau président, est illégitime. Parce que, voilà, il n'aurait pas rempli certaines conditions avant d'être élu. Alors que l'autre camp estime qu'il est d'abord légal et il est aussi légitime, puisqu'il y a eu 37 fédérations qui se sont réunies pour élire donc le nouveau président. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les deux camps ne veulent pas s'entendre pour pouvoir sauver les meubles. Je suis d'accord avec mon confrère du Temps Nouveau qui dit que voilà, maître Agboibo et son héritage est en difficulté. Donc, il va falloir prendre de la hauteur. Je crois, moi, sincèrement, que lorsqu'il y a mésentente et qu'il y a conflit et que vous n'arrivez pas à gérer par des voies amiables, il faut aller vers les urnes. Et c'est les populations, c'est les membres, les militants qui vont trancher en dernier ressort. Lorsque vous ne vous entendez pas, alors c'est une élection qui vient mettre fin aux mésententes. D'accord? Donc, ce qui a été fait, j'estime qu'il y a eu une élection, les fédérations étaient là. Donc maintenant, il faut préparer les défis qui attendent le CAR. Est-ce que le CAR va mourir? Comme certains partis politiques, les héritiers qui sont actuellement là, ce sont eux qui doivent sauver les meubles.
Merci, Godson. Pour résumer, Daté élu au congrès réouvert du 27 mai, Daté dit qu'il a de son côté la légalité et en face, il y a l'autre camp qui opte beaucoup plutôt pour la transition et il dit revendique de leur côté la légitimité et accuse le camp Daté d'usurpateur. Et la semaine, on a vu le camp Daoukou de la transition qui allait changer les serrures des portes au siège, ce contre quoi le camp Daté s'élève. Et on peut imaginer l'image que cela fait dans l'opinion publique.
Quant au Togo, on sait que les militants ne cotisent pas au sein des partis politiques. Je me demande pourquoi les gens tiennent tant à être à la tête des partis pour les élections ou alors pour l'argent que l'État va distribuer et que les gens vont se partager. Parce que ça, nous avons mieux à faire que de se disputer pour des bisbilles. J'appelle ça des bisbilles. Et ils sont en train de creuser leur propre tombe. S'ils n'y sont pas déjà tombés, ce serait alors à l'avantage de leur adversaire. Je ne vais pas donner de nom, mais s'ils veulent emprunter cette voie, bon vent à eux.
Nous rappelons juste qu'il est annoncé des élections législatives et régionales pour cette année 2023. Même si on ne connaît pas encore le chronogramme, on vient d'avoir le recensement et pour la suite, tous les politiques individuellement ou en groupement devraient se rappeler que nous sommes en année électorale et devraient veiller à envoyer des images et des symboles plutôt positifs au sein de l'opinion, parce que on va terminer par là avec Germain. L'arbitre du jeu démocratique, c'est le peuple lorsqu'il ira s'exprimer dans les urnes.
Oui, tout à fait, et surtout les militants des partis concernés, parce que quand vous écoutez certains, ils sont totalement déçus par la plupart des partis de l'opposition. Et aujourd'hui, avec la vie chère, les gens préfèrent chercher quoi manger plutôt que d'assister à des feuilletons qui jouent au niveau de certains épisodes qui ne les intéressent plus aujourd'hui. Et cette génération-là de Maître Agboibo est en train de partir avec cette force politique-là. Et le nouveau dirigeant, le nouveau successeur qui aurait pu asseoir leur légitimité, puiser un peu leur énergie, de la stabilité de leur formation, de la cohésion de leur formation, malheureusement, ils arrivent à la tête des partis politiques après des ruptures, parfois des divorces, après des éclatements. Et c'est pas exclu que demain on assiste à une autre dissidence, donc après le FDR, c'est pas exclu qu'un autre parti conduit par un ancien responsable du CAR, donc NES. Et donc tout cela, je pense que pour les militants aujourd'hui, c'est un échec. Et plusieurs n'entendent plus se mêler à cela, c'est vrai. que Godson disait que les militants ne cotisent pas, mais c'est qu'ils n'ont pas cette culture, y compris dans le camp présidentiel, les militants ne cotisent pas non plus là-bas. Hein. Donc c'est, en Afrique en général, on pense que ce sont les dirigeants des partis qui doivent financer les partis ou aller chercher des financements pour faire rouler la machine. Mais après, on a besoin de ces militants-là le jour du vote. Et aujourd'hui, ce qui se passe globalement dans l'opposition n'est pas de nature.
Merci, Germain. Je rappelle que ces derniers temps, l'ANC demande à ses militants sympathisants de mettre la main à la poche en prévision des élections à venir. Il est midi, passe de quelques minutes. Nous marquons une pause. Et nous vous attendons le temps que la technique adresse les clins d'œil de la radio aux partenaires et que vous entrez en ligne sur les deux numéros que vous connaissez déjà.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Les deux numéros que je vous rappelle, le 22, 21, 33, 74 et le 91, 36, 63, 75 pour recueillir vos commentaires et vos questions. Nous vous prions juste de vous limiter au point que nous avons discuté aujourd'hui. Déjà, premier auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour l'ami. Ah, il n'a pas le retour. Allô. Ok, on peut passer sur le deuxième numéro. Il doit y avoir quelqu'un d'autre là-bas aussi. Oui, bonjour madame, bonjour monsieur.
Allô.
Oui. Oui, bonjour.
Allô.
Oui. Ah, qu'est-ce qui se passe ce matin? C'est les amis qui n'ont pas le retour ou quoi? Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, c'est monsieur.
Oui, c'est Mathieu.
Mathieu.
Oui.
Vous nous appelez de quel quartier?
Oui, j'appelle d'Avenou.
Avenou.
Oui.
Ok, nous vous écoutons.
Oui, s'il vous plaît, c'est pour intervenir par rapport au mauvais comportement des filles.
Oui.
Il m'a semblé que vous n'avez pas posé sur la table les raisons qui poussent les filles à cette vie.
Bon, nous en avons un peu parlé. Si vous voulez nous compléter, bien, vous êtes le bienvenu.
Oui, l'État a une grosse part de responsabilité. Mm-hmm. Je m'explique. Vous savez, nous sommes en Afrique. Quelle que soit la situation d'une personne, on lui demande au moins, il faut avoir au moins un enfant. Tu mets un enfant au monde, tu es sans emploi ou bien carrément tu as perdu ton emploi, tu vis difficilement. Comment tu venir aux besoins de cette fille qui est né à un certain âge, quand ses besoins s'augmentent, mais toi, le papa, tu désengages. L'enfant mène une vie que tu ne peux plus contrôler. Mm-hmm. Parce que nous n'oublions pas une chose. Quand un parent est vraiment pauvre, très pauvre comme le mot, il est difficile qu'il donne des conseils appropriés à son enfant.
Oui, oui.
Donc, l'enfant est maintenant est laissé pour compte. Et voilà, il imite ses camarades, on lui dit, mais fais ça pour avoir un peu d'argent. Et voilà, bonjour les dégâts. Donc l'État doit tout faire. Pourquoi le social dans ce pays? C'était le maître mot du président de la République, le social. Que ce social vraiment puisse être concret dans nos familles respectives. Et là, ça va arrêter tant soit peu cette gabegie au niveau des filles.
Merci, pourquoi pas. Je rappelle que Fonyan Singbe m'a dit que personne ne devrait être laissé sur le carreau. Hein, et Victoire Tomega Dogbe a réitéré ce discours à Genève. Il faut faire en sorte que effectivement aucun Togolais, aucune Togolaise ne soit laissée sur le carreau. Deuxième auditeur, bonjour.
Oui, bonjour, grand-père.
Oui.
Benoît Dagouet,
nous écoutons.
Vous savez, on parle trop, nos dirigeants, ils parlent trop. Et le tiers de l'État, quand les sénateurs aux États-Unis est au pouvoir, ça fait 18 ans. Bientôt 20 ans. Ça fait 4 mandats. Et vous nous parlez qu'aucun problème ne sera laissé sur le carreau. C'est les beaux discours, ils sont fatigués. Il faut les faire. Quand vous voyez le Bénin, le Bénin, et les routes là, quand. ils informent la la télévision ORTB montre les étapes le tourisme, on montre tout. Sans parler du leadership, la vision du chef de l'État, la vision du le chef d'État, le chef de ce pays. 20 ans, 4 mandats, ça fait combien? 5 présidents américains. Bonne journée.
Je vous en prie, Benoît Dagoué. Le suivant, bonjour. Allô? Ok, nous avons écouté Mathieu Davenou et puis Benoît Dagoué. Bonjour. Bonjour. Oui.
Allô?
Oui, bonjour. C'est monsieur?
Allô?
Oui, bonjour, je vous écoute, je vous reçois.
C'est Frédéric depuis Bangeli.
Ah, depuis Bangeli? Ok, c'est monsieur?
J'appelle pour côté de l'électricité. Je félicite le gouvernement pour ce que ils font.
Oui.
Ce que je vais dire, le gouvernement n'a qu'à faire une foire aussi pour nous amener le courant.
À Bangeli.
Le courant n'est pas à notre niveau. Chaque moment, c'est le groupe de 18h à 21h, il coupe.
Oui.
C'est pourquoi je vous ai appelé pour vous signaler pour que je supplie le gouvernement pour venir nous faire le courant à notre niveau aussi.
Merci, l'ami Frédéric.
Merci.
Depuis Bangeli, je rappelle que à Genève, la chef du gouvernement a parlé du renforcement du capital humain des Togolais avec l'accélération de l'accès aux services publics essentiels, dont l'électricité qui doit aller à Bangeli, préfecture de Bassa. Merci beaucoup, l'ami Frédéric. Le suivant, bonjour.
Bonjour, Sas, comment allez-vous?
Ah, ça va chez nous, c'est...
C'est Karim.
Karim.
Oui, Sas.
Le taximan.
Oui, Karim.
Je
salue tous les invités.
Merci.
Je voulais m'adresser ma parole au niveau des filles qui font la prostitution et des trucs là. Ça, j'ai 4 boutiques au niveau d'Agoué, c'est un ami. Quand je vais chez lui souvent, je lui demande combien tu payes tes servantes.
Mm-hmm.
Les servantes sont payées à 20 000.
20 000 le mois.
20 000 le mois. Il y a une personne qui est à Higranawe. Il y a 2 personnes qui sont à Legbacito et il y a une personne qui est au niveau de... C'est comme avait dit. Et je demande comment 20 000 par mois. Alors que ce n'est pas des filles, c'est un de retenu, deux de retenu.
C'est-à-dire des filles mères. Des filles mères, c'est ça, non?
Oui, oui.
Oui.
Ils ont leurs enfants à la maison. Ils doivent nourrir leurs enfants. Ils sont en location à Lomé. Ils doivent manger tout ça. Ils ont leurs parents nourris. Et 20 000 francs. Non, mon gamin, le frère me dit que non, c'est comme ça, même partout. Il y a son voisin qui est à côté, il y a des bars qui sont alignés jusqu'à l'Ebacito, d'autres payent à 15 000 francs par mois. Alors que le gouvernement dit que le SMIC est à 52 500 par mois.
Mm-hmm.
Comment les gens peuvent vivre avec 20 000 francs à Lomé? 20 000, même si c'est 52 500, les gens n'arrivent pas. Les gens n'arrivent pas. Et même 20 000, on paye les gens. Les gens peuvent se donner, les femmes peuvent se donner à tout moment, les garçons. Et à 1000 francs, 2000, ils peuvent manger, ils peuvent nourrir leurs enfants à la maison et ils attendent à la fin du mois pour prendre son argent. Le gouvernement n'a qu'à décider, ils n'ont qu'à taper sur les tables, ils ont de l'argent. Ils n'ont qu'à faire sortir de l'argent.
Merci Karim pour ce témoignage vraiment poignant. Nous ne mettons pas d'autres commentaires. Le suivant, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
C'est Nissou.
Pardon? Allô? Qu'est-ce qu'il y a avec les lignes ce matin?
Allô?
Oui, bonjour, je vous reçois.
Bonjour, c'est
Ce n'est pas bon la qualité. Allô?
Moi, je vous reçois bien. Je dis c'est
Oh, c'est... Votre voix ne passe pas bien à l'antenne.
Allô?
Allô? Oui, vraiment, Chade, j'aurais bien aimé écouter cet ami.
Allô?
Oui.
Oui, bonsoir.
Bonjour.
Oui, c'est Komi.
Komi.
Moi, je reviens sur le sujet de la CENI.
De?
La CENI.
La CENI, oui.
Oui. Vous l'aviez dit il y a de cela au moins quelques semaines. c'est juste pour rappeler à la CENI que ce que lui-même il a pu constater, il faudrait qu'il revienne corriger. Parce que lorsque la CENI parle de dysfonctionnement qui est certifié par le gouvernement, ces dysfonctionnements ont porté préjudice ou bien pour conséquence certains Togolais qui sont restés sur les carreaux, qui n'ont pas eu leur cadre directeur. Donc du coup, c'est eux-mêmes qui doivent se programmer pour venir corriger le tir. On ne doit pas attendre la voix d'un quelconque parti politique, d'une société civile, avant de corriger le tir. C'est ça qui démontre l'indépendance de la structure. Mais s'il veut nous faire croire comme quoi ce sont des nommés venus de l'Assemblée nationale par les partis politiques. Comme
je préfère qu'on s'arrête sur le caractère indépendant de la CENI. C'est bon comme vous a commis.
Là, je passe. Pour finir,
oui.
Vous le savez très bien, la CENI est censée avoir le fichier électoral le plus fiable. Du coup, ce fichier-là doit être mis à la disposition des partis politiques. On veut une fois de plus pour l'année-là, pour que ça se passe et qu'il n'y ait plus de contestation. Merci.
Merci. Je rappelle juste que entre-temps, une délégation de la DMP, la Dynamique pour la Majorité Populaire, est allée rencontrer le président de la CENI et lui a exprimé expressément ses demandes d'une séance de rattrapage dans la zone 1. Le dernier auditeur aujourd'hui.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, chère soeur.
Oui, c'est
bonjour,
monsieur.
Bonjour les invités. Monsieur Nicolas depuis Atiégou.
Nicolas depuis Atiégou.
Oui.
Ok, nous écoutons.
D'accord. Et s'il vous plaît, monsieur Sasseur, c'est à propos du sujet qui concerne le cas.
Oui.
J'aimerais juste profiter de cette opportunité pour interpeller nos leaders africains à faire des efforts pour choisir le numéro 2 dans leur mouvement. Et je jette un appel sur le défunt de lui-même. Il aurait pu choisir à peu près son défunt avant de partir parce qu'il n'est pas mort aussi et je ne fais ça. Donc, c'est le lieu d'inviter tous les Africains à tirer un peu de leçon quant à ce qui concerne la gestion des choses.
Merci.
Donc, le second sujet,
oui.
Lorsque vous visitez aujourd'hui certains coûts sociaux, certaines sociétés, en l'occurrence la brasserie, vous allez remarquer les vaillants jeunes travailleurs et précisément les conducteurs de chariots élévateurs, ils sont très très mal rémunérés malgré leurs efforts, juste parce que il y a des sociétés de sous-traitance qui s'interposent et ils prennent la plus grande partie de leur rémunération et leur remettent le terrain. Et c'est
déplorable.
Ok. À volonté, monsieur Sasseur.
Merci beaucoup. Hein. Les travailleurs de ce secteur-là devraient s'organiser et trouver les voies les plus adaptées à porter leurs revendications. Et puis l'ami Nicolas qui demande aux leaders politiques de choisir leur dauphin de leur vivant, c'est possible. Mais est-ce que c'est la voie la plus démocratique? Est-ce qu'il revient au président de choisir son dauphin ou bien laisser plutôt l'expression populaire au sein du parti désigner le leader ou bien dans tout le pays, la question reste posée. Merci à tous les amis qui ont pu entrer en ligne aujourd'hui. Toutes nos excuses à l'endroit de ceux qui l'auraient tellement voulu mais que la technique n'a pas pu permettre. Tour de table pour vos conclusions, Olivier.
Oh, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est que il faut quand même que les partis politiques de l'opposition se ressaisissent parce que le pouvoir, ça ne se donne pas, ça se conquiert. Et pour conquérir un pouvoir, ça demande de l'organisation, ça demande des moyens. Donc, lorsque vous passez votre temps à vous battre, à vous taper dessus, ne vous étonnez pas que le résultat que vous avez ne soit pas à la hauteur de ce que vous attendez. Mm-hmm. Ça, c'est normal. Et je crois que sur cette partie, il faut prendre de la hauteur et pouvoir, en tout cas, s'organiser pour faire face aux échéances à venir. C'est tout.
Merci. Germain ?
Moi, je vais revenir sur une journée à laquelle on a oublié un peu de parler. C'est la journée mondiale du donneur de sang,
oui,
qui a été célébrée le 14 juin, il y a deux jours. Le Togo est en manque de sang. On a besoin d'environ 75 000 poches de sang, donc tous les ans. Et en remerciant tous ceux qui ont l'habitude d'aller donner de leur sang pour sauver la vie des autres, on lance cet appel à l'occasion de cette journée pour que ceux qui ne l'ont jamais fait.
Un peu de volume ?
Ceux qui ne l'ont jamais fait, mm-hmm, essaient de le faire. Maintenant, pour revenir rapidement aux dames qui travaillent dans les bars, c'est rappeler aussi à ceux qui vont dans les bars aussi de faire l'effort de laisser un petit pourboire. Mm-hmm. On souvent ramasse toute la monnaie. Et ici comme ailleurs, ce n'est pas ce qu'on paie dans les bars qui permet à ces personnes de vivre. Mais ce sont les pourboires qui représentent, ouais, beaucoup plus que le salaire. Et donc, quand vous êtes bien servi, c'est normal. Quand vous êtes mal servi, vous pouvez ne pas laisser de pourboire. Donc, à ces filles-là, qu'elles fassent l'effort de bien servir. Et qu'en retour, que quand il y a la monnaie, quand même, qu'on laisse quelques traces dans le bol, ça aiderait,
merci,
aussi.
Merci pour cet appel. Maintenant que nous savons combien gagnent les filles, nous pouvons les aider par de petits pourboires, mais en même temps, quand nous allons dans les bars, c'est la boisson que nous consommons. Hein? Ce n'est pas la serveuse qu'on devra aussi consommer. Non, ça aussi, c'est important.
Le pouvoir, c'est pour le service.
Oui.
C'est pour ça. Il y en a qui, déjà, vous êtes assis, vous apportent même pas de verre quand elles viennent traîner. C'est normal qu'on ne leur donne rien parce, oui, qu'on n'a pas été.
Non, ça, nous sommes d'accord.
Mais il y en a qui servent très bien.
Oui, mais ça dit, c'est consommer la boisson et ne pas chercher à consommer la serveuse de la boisson. Godson.
Ça, tu es seul à savoir ce que tu viens de prononcer comme phrase.
En tout cas, tu as entendu quand même.
Je reviens sur la journée de l'enfant africain pour dire que pour nous les parents qui sommes déjà parents, qu'on prenne sur nous d'éduquer, de transmettre à nos enfants que si hier certains d'entre nous ont fait les enfants sans savoir pourquoi ils l'ont fait, faudrait que nos enfants à nous, quand ils grandiront, sachent pourquoi ils vont ou ils doivent faire des enfants. On ne fait pas d'enfants pour ne pas en prendre soin, que l'État soit là ou pas. Le premier responsable, c'est toi qui as trouvé une femme pour qu'on te fasse un enfant. Si c'est un, prends-en soin. Si c'est deux, mais retiens seulement que plus ça se multiplie, moins tu auras la capacité d'en prendre efficacement soin.
Merci. Ça, c'est la parole d'un homme à la barbe blanche. Et c'est sur ce que nous clôturons le Club de la Presse de ce jour et de cette semaine. Nous nous invitons tous en week-end. Pour ceux d'entre nous qui auraient un deuil, un parent, un voisin, un collègue, nous compatissons avec vous. Mais également ceux qui ont des occasions de sortir, d'aller rendre visite à un parent, de sortir un peu, nous nous souhaitons d'en jouir et de nous retrouver tous en bonne santé physique et mentale le lundi prochain. Et bon week-end, à lundi donc.
Je veux te dire maintenant, chérie.